le magazine des Nations Unies.
Les casquets bleus à l'honneur, nous sommes le 29 mai, date consacrée par les Nations Unies à toutes ces personnes qui consentent des sacrifices pour la paix dans le monde. En RDC, la MONUSCO a rendu hommage à ces casquets bleus à travers plusieurs manifestations, dont la parade mixte MONUSCO-PNC à Kinshasa. Dans cette édition également, un invité spécial par rapport à cette journée, le général Awale Abdou Nassir, commandant de la police des Nations Unies en RDC. Invité spécial, mais aussi portrait spécial, vous entendrez l'un des colonels de la PNC du contingent congolais de l'ONUCI, la mission de l'ONU en Côte d'Ivoire. Enfin, l'UNICEF propose 3 initiatives aux partenaires mondiaux pour la protection des enfants dans les zones de conflit et les urgences, notamment en RDC. C'est ce qui ressort de la participation de cette agence des Nations Unies au sommet humanitaire mondial qui vient de se tenir à Istanbul. Les détails avec la chargée des urgences à l'UNICEF RDC dans quelques instants.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous. L'actualité de cette semaine a été marquée par la journée internationale des casques bleus. En RDC, un hommage a été rendu à ces hommes et femmes qui militent pour la paix dans le monde au prix de leur vie. À Kinshasa, la MONUSCO a organisé une parade militaire à la place de l'Indépendance. Jean-Pierre Elalikoko a assisté à cette manifestation. Suivez son reportage.
C'est sur le coup de 10h30, heure de Kinshasa, qu'a démarré la cérémonie commémorative de la journée des casques bleus. Dépôt de gerbes et de fleurs, deux allocutions et surtout une parade mixte MONUSCO-PNC sont les temps forts de la manifestation. Dans son intervention, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Évariste Boshab, a rendu un vibrant hommage aux casques bleus. Pour lui, la RDC a bénéficié de leur contribution dans sa quête de la paix.
Nous voulons remercier les Nations Unies, puisque notre pays est bénéficiaire de cette contribution de ces professionnels qui, au prix de leur sang et tant de sacrifices, se battent aux côtés de nos militaires afin que la protection des civils dans des zones de conflit ait tout son sens. Héros, ils le sont. Ainsi, le peuple congolais, dans toute sa diversité, s'est joint à la communauté mondiale pour les rendre les hommages dignes de la grandeur de leur âme.
Réitérant le même hommage au casque bleu, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies a fait lecture du message de Ban Ki-moon. Maman Sidikou a ensuite mis en exergue le rôle des casques bleus de la MONUSCO dans la pacification de la RDC et salué la reprise de la coopération militaire MONUSCO-FARDC.
Je profite de cette occasion pour saluer la reprise de la coopération entre la MONUSCO et les autorités de la RDC, particulièrement la reprise des opérations coordonnées entre les FRDC et la force de la MONUSCO, ce qui va certainement contribuer à améliorer la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Je suis heureux de vous informer qu'en ce moment même, la MONUSCO est en train de soutenir l'opération Usalama de la FRDC qui vise à neutraliser les groupes armés qui massacrent les populations innocentes dans la zone de Béni.
Pour rappel, la journée des casques bleus a été instituée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2002 et la date du 29 mai a été retenue en référence à la première mission des Nations Unies déployée en 1948 au Moyen-Orient pour observer et maintenir le cessez-le-feu dans la guerre israélo-arabe.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Trois initiatives de l'UNICEF proposées aux partenaires mondiaux pour la protection des enfants et l'amélioration de leur situation en RDC dans le monde. C'est ce qu'on peut retenir de la participation de cette agence des Nations Unies au sommet humanitaire mondial tenu du 23 au 24 mai dernier à Istanbul en Turquie. Brigitte Pedro, responsable des urgences à l'UNICEF RDC, explique ces initiatives et leur impact sur la vie de l'enfant congolais. Il répond aux questions de Jean-Pierre Elali. Ikoko.
Madame Brigitte Pedro, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de la section urgence à l'UNICEF RDC. Le sommet humanitaire mondial vient de se tenir à Istanbul, à l'initiative du secrétaire général des Nations Unies. L'UNICEF, votre agence, a pris part à cette rencontre. Que pouvons-nous retenir lors de la participation de l'UNICEF à ce forum?
Alors, tout d'abord, on va essayer de remettre dans le contexte du forum, quels ont été un peu les objectifs de ce forum, et après on regardera un peu peut-être la partie UNICEF. Mais... Donc, au niveau du forum, il y avait quatre points sur lesquels il fallait, un certain nombre de discussions. La première concerne la prévention et la résolution des conflits, pour lequel aujourd'hui 80% de l'aide est canalisée pour financer la réponse à ces conflits. La deuxième, c'est renforcer la protection des civils et les droits de l'homme, principalement, pour éviter que effectivement ces populations affectées soient le plus sous des attaques perpétrées par l'ensemble de ces groupes, et aussi renforcer l'application des lois internationales et les droits humains qui sont aujourd'hui pas toujours bien appliqués. Le troisième point, c'est de ne laisser personne derrière, donc prendre en compte toutes les vulnérabilités, toutes les personnes qui sont affectées. Ensuite, je crois que ce sommet a permis effectivement de mettre en avant le lien entre urgence et développement et de renforcer en fait le fait que ces acteurs doivent mieux coopérer pour pouvoir avoir des stratégies à long terme et des solutions durables pour pouvoir répondre à ces populations en détresse et en conflit. Et enfin, effectivement, et c'est un peu ce que je disais, c'est qu'il va falloir effectivement renforcer ces mécanismes de financement, voire un peu d'autres mécanismes qui vont permettre de construire des structures plus stables et d'avoir des sociétés beaucoup plus inclusives qui vont pouvoir se développer. Alors après, plus spécifiquement sur UNICEF, on a effectivement lancé un appel, principalement autour de l'éducation, qui est aujourd'hui un des éléments les plus faibles dans la réponse humanitaire. Donc c'est l'appel qui s'appelle « Education can't wait, cannot wait », donc l'éducation ne peut pas attendre, et sur lequel effectivement il y a un certain nombre d'actions qui ont été mises en place.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette initiative? Parce qu'il y en avait trois. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'éducation ne peut pas attendre?
Il y a effectivement trois initiatives. Il y a l'éducation ne peut pas attendre, qui doit permettre l'accès à l'enseignement des enfants et aussi faciliter le travail des enseignants sur le terrain. Donc ça, c'est extrêmement important. La deuxième initiative, ça concerne aussi la protection des enfants dans les écoles et dans les hôpitaux, qui sont souvent la cible à la fois des groupes armés, mais qui est aussi un environnement protecteur pour les populations déplacées. Et donc, c'est des espaces sur lesquels les enfants sont exclus parce qu'ils ne peuvent plus avoir accès à l'éducation. La dernière initiative, c'est effectivement de mettre fin à la souffrance des enfants, donc pas uniquement liée à la question de l'éducation, sur toutes les crises qui affectent les enfants, que ce soit l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès à la protection, l'accès à l'eau, l'hygiène, l'assainissement, l'accès à des soins de santé primaire, la nutrition.
Justement, vous parlez des crises. En RDC, près de 4 millions d'enfants sont touchés par ces conflits, et ces conflits ont exactement un impact sur la scolarité de l'enfant en République démocratique du Congo notamment. Quelles sont, madame, les priorités dans le programme éducation dans les urgences en ce qui concerne justement l'enfant congolais?
Alors, je voudrais aussi mentionner qu'on a un partenariat avec le gouvernement, avec le ministère de l'éducation, et alors qui est notre partenaire aussi dans la réponse à l'éducation en urgence. Donc ça, c'est important aussi de mentionner qu'on est partenaire du gouvernement, donc dans le cadre d'une approche multisectorielle, donc qui permet à la fois de garantir la scolarisation des enfants donc qui sont affectés par les crises, et on focalise principalement sur les plus vulnérables quand ils sont déplacés ou lorsqu'ils sont membres d'une communauté d'accueil. Le deuxième volet, c'est la protection des enfants via l'organisation d'activités qui contribuent à leur bien-être psychosocial et au renforcement de leur résilience. Troisième point, c'est l'amélioration de la qualité de l'éducation via le renforcement des capacités des enseignants, des comités de parents, la mise à disposition de matériel scolaire et de support pédagogique, l'amélioration des conditions d'apprentissage et la mise en place du mécanisme de redevabilité envers les bénéficiaires. Donc ça, c'est des mécanismes qui sont effectivement synergiques et existent entre l'éducation et les autres secteurs.
J'allais en venir. Ouais. Quelques exemples concrets, notamment dans l'est du pays. Est-ce que vous pouvez nous donner aussi des priorités de ce programme?
Alors, ce programme, en fait, vise 200 000 enfants, donc qui sont aujourd'hui, ciblés par UNICEF dans son appel aux urgences pour la RDC en 2016, sachant que ça ne contribue pas à l'ensemble de la réponse, parce que les besoins sont à peu près pour 700 000 enfants dans le pays. Mais bon, UNICEF est aussi le cluster lead de l'éducation, et donc avec ses partenaires des autres clusters, on essaye de combler, les gaps pour atteindre au moins 700 000 enfants à travers du pays, principalement donc à l'est de RDC, mais y compris aussi les réfugiés burundais et les réfugiés sud-soudanais et les réfugiés centrafricains qu'on a aujourd'hui sur l'ensemble du territoire.
Et selon une analyse, madame Brigitte Pedro, 4 écoles ou hôpitaux sont détruits ou occupés par les groupes armés dans le monde. En RDC, 824 écoles ont été détruites ou endommagées suite suite au conflit. Quelle a été alors la requête de l'UNICEF au sommet d'Istanbul pour améliorer la situation?
Effectivement, ce point-là est dans l'appel numéro 2 de l'UNICEF sur justement la protection des enfants dans les écoles et dans les hôpitaux. Et effectivement, on déplore qu'en RDC, 824 écoles ont été détruites ou endommagées, principalement à l'est de la RDC. On a un programme de reconstruction qui est en lien avec ce que je disais tout à l'heure sur l'éducation en urgence, où effectivement on remet à niveau les infrastructures scolaires. On a un programme même au sein de l'UNICEF qui contribue fortement à ces dimensions-là, c'est le programme de réponse rapide au mouvement des populations, qui a un volet éducation sur lequel il y a à la fois la reconstruction des infrastructures, mais aussi l'accompagnement sur l'enseignement, l'accompagnement des enfants pour qu'ils puissent étudier dans un environnement sain et protecteur. Ce que je voudrais aussi rajouter, c'est que l'importance de l'éducation au sein de l'UNICEF, si on regarde sur les 20 ans qui viennent de se passer en RDC, le conflit, on peut se dire qu'on a presque une génération perdue d'enfants qui n'a pas été éduquée et sur lequel il faut vraiment qu'on remette l'investissement dans les années à venir si on ne veut pas qu'une autre génération encore soit une génération perdue d'enfants qui ne soient pas éduqués.
Oui, revenons sur les trois initiatives-là. Vous les avez proposées aux États membres lors du sommet. Là, les trois initiatives ont été prises en compte.
Oui, effectivement, je crois que c'était déjà un point très important qu'on puisse déjà proposer ces engagements vis-à-vis d'UNICEF, parce qu'on s'est rendu compte que sans éducation de la génération qui monte, c'est des pays qui sont complètement perdus en termes de développement. Et donc, comme les enfants sont les premières victimes des crises, il faut vraiment qu'on investisse sur ce volet-là. Chose qui, effectivement, reste relativement, peut-être pas nouvelle à UNICEF, mais pour certains donateurs, peut-être devient une priorité. Par exemple, ECHO, qui est le principal donateur en matière de réponse aux urgences, a mis dans son agenda aussi la priorité sur l'éducation, sur ses prochains sources de financement. Donc, le message est en train de passer, il y a des engagements qui sont pris. UNICEF va s'engager aussi avec l'ensemble de ses partenaires pour aussi avoir un fonds de financement pour ses actions d'urgence en éducation.
Donc, vous êtes optimiste?
Oui, il faut rester très
quand
optimiste.
Quand on est tombé, Madame Radio Capi vous remercie.
Merci bien, au revoir.
Quelques nouvelles en bref. D'abord, c'est lancement à Kinshasa mercredi 25 mai dernier d'un nouveau projet pilote dans le domaine de la lutte contre l'impunité des crimes graves, c'est-à-dire les crimes de guerre, les crimes de génocide et les crimes contre l'humanité, financé par l'Union européenne en partenariat avec le programme des Nations unies pour le développement PNUD. Ce projet vise à renforcer l'accès à la justice et à la réponse judiciaire, tant au niveau national que régional et international, pour contribuer ainsi à la lutte contre l'impunité des crimes internationaux dans l'Est de la RDC. Autre projet, c'est le projet intégré des stabilisations du Nord KLE. 45 agents de l'administration publique des Minova, Numbi et Ziralo sont en formation du 23 mai au 1er juin 2016 dans le cadre de ces projets financés par les fonds pour la consolidation de la paix. Le projet a pour but d'améliorer la qualité des services fournis par l'administration publique afin de renforcer l'autorité de l'État et accroître la confiance des populations sur l'axe Minova-Numbi-Ziralo en territoire de Kalehe dans la province du Sud-Kivu. Les agences impliquées dans la mise en œuvre de ces projets sont le PNUD, l'OIM et UN Habitat ainsi que la MONUSCO. Enfin, MONUSCO encore, une session de formation au bénéfice de Point Focaux Jean-UNPOL s'est tenue du 24 au 26 mai à Goma au Nord Kivu. Le général Tabaski Diouf, commandant adjoint de la police des Nations Unies en RDC, a procédé à l'ouverture officielle de cette session de formation. Celui-ci a souligné à cette occasion la nécessité d'avoir des connaissances spécifiques pour la mise en compte de la problématique homme-femme.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Nous revenons sur la journée des casques bleus, célébrée ce dimanche 29 mai, cette fois avec un invité spécial, lui-même casque bleu. Il s'agit du général UNPOL Awale Abdounassir. Dans un entretien avec le magazine des Nations Unies, à la veille de cette journée, le commandant de la police des Nations Unies parle de cette journée et du rôle de UNPOL. Le général Awale répond aux questions d'Honoré Missenga Kalala.
Général Awale Abdounassir, bonjour.
Bonjour.
Mon général, vous êtes le commandant de UNPOL. UNPOL, c'est la police des Nations Unies en RDC, poste que vous occupez depuis le 22 février 2016. Le 29 mai est une date consacrée au casque bleu de l'ONU. que vous inspire en général la commémoration de cet événement par rapport au casque bleu de la MONUSCO?
D'abord, merci pour l'opportunité que vous m'offrez aujourd'hui à communiquer par votre intermédiaire et pour vous dire que tout le plaisir qui est le mien de venir échanger avec vous. Concernant la journée des casques bleus, d'abord, pour nous, ça représente une très grande fierté qu'il y ait une journée dédiée aux casques bleus. Vous savez, tous les sacrifices consentis dans différentes contrées pour venir aider la RDC, mais d'une manière générale, les missions de maintien de la paix, et le sacrifice consenti. Il ne faut pas oublier les casques bleus qu'on a perdus, ici et dans toutes les missions. Il ne faut pas oublier des casques bleus blessés, hein, à vie, parce qu'ils ont été très volontaires pour venir servir la paix dans différentes contrées. Et pour nous, d'abord, c'est un grand souvenir, hein, pour les hommes et les femmes que nous avons perdus. Et également, c'est pour nous tous qui sommes là actuellement, une invitation à mieux faire. Donc voilà les deux aspects que m'inspire cette journée-là.
Pour le commun des mortels, lorsqu'on parle des casques bleus, on voit plus les militaires. Comment se présente alors le corps que vous dirigez en termes d'effectifs, pays de provenance, secteur de déploiement et rapport homme-femme?
Merci pour la question, parce que ce n'est pas une question posée ici uniquement à la MINUSCO, hein, c'est une question assez générale. Il faut savoir que dans l'histoire des maintiens de la paix, la police était dans la composante militaire, effectivement. Et c'est depuis la recommandation du rapport Brahimi que la police a eu un commandement distinct de celui des militaires. Et effectivement, nous avons un rôle très différent de la force, mais très complémentaire en termes d'activité. Pas seulement ici, mais de manière générale. Hein. La police des Nations Unies en général est présente dans 16 missions de maintien de la paix et des missions politiques. Et notre rôle est essentiellement axé sur les aspects sécuritaires quand la force se concentre sur la question des défenses. Donc vous voyez déjà, il y a deux domaines très distincts en termes de sécurité, en termes de défense, que nous intervenons de manière très distincte. Et nous, nous travaillons ici particulièrement à la MINUSCO à promouvoir les libertés, travailler dans la protection des civils, appuyer la PNC, renforcer les capacités de la PNC. En d'autres termes, le mandat est très clair. Pour votre information, le Conseil de sécurité a voté une résolution particulièrement sur la police des Nations Unies, c'est la résolution 2185, qui consacre essentiellement pour la police des Nations Unies, pour dire que dans l'histoire des missions de maintien de la paix, du DPKO, la seule composante à qui on demande de faire de la protection des populations, de la stabilisation, des renforcements des capacités, du développement de la PNC, c'est la police des Nations Unies. Ça, c'est la résolution 2185 qui reconnaît tout le travail fait par la police des Nations Unies en général et particulièrement ici, la police MINUSCO ici. C'est un point important pour nous d'expliquer qu'est-ce que la police MINUSCO fait, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle compte faire dans son plan d'action par rapport à notre déploiement d'une manière générale. Alors, il faut savoir que le Conseil de sécurité a autorisé la police MINUSCO pour un effectif de 1441 officiers. Ça, c'est les effectifs autorisés. Ces effectifs de 1441 officiers autorisés sont présents dans 26 localités et nous sommes organisés en quartier général ici à Kinshasa, un état-major à Goma, mais également nous sommes présents dans la majorité des grandes villes de l'est du pays, mais également on participe au travail de la MINUSCO dans quelques antennes, mais sinon nous sommes présents dans la majorité des grandes villes du pays.
1400 éléments proviennent de quel pays principalement?
Au jour d'aujourd'hui, on a à peu près des représentants de 20 pays, et ça varie en fonction des pays contributeurs. Ça peut aller jusqu'à 25, 26 pays. Nous y travaillons pour que davantage de pays soient représentés, d'autant plus que c'est une question qui concerne tous les pays. Le cas du Congo n'est pas un cas particulier, hein. Il y a d'autres pays qui ont des missions de maintien de la paix. Et nous encourageons à la participation de plus de femmes et plus de pays représentés dans cette mission.
Quel apport on peut attendre du UNPOL, notamment dans le cadre du processus électoral en cours?
Pour la résolution qui a été votée en mars dernier, hein, la 2277, met un accent particulier sur les élections, effectivement. Et la police MINUSCO a travaillé déjà un plan d'action globale qui s'articule sur trois phases importantes. Et ce plan a été développé, bien entendu, avec la PNC par rapport à leurs besoins spécifiques. Donc, ce n'est pas seulement un plan d'appuyer la PNC, mais de nous organiser nous-mêmes de façon à pouvoir aider la mission à faire face à des difficultés au cas où. Nous avons finalisé ce plan-là, nous avons soumis à la hiérarchie, nous avons partagé avec les partenaires de façon à pouvoir aider la PNC et nous aider nous-mêmes dans le cadre des élections qui arrivent.
Dernière question, peut-être mon général, avant la MONUSCO, vous avez occupé le même poste à la MINUSMA, vous avez servi à l'OMICI, et puis vous êtes à la fois politique et scientifique de par votre formation, titulaire d'un master en droit et en politique de sécurité, et deux masters en biochimie. Donc, vous traînez derrière vous une riche expérience professionnelle, en plus du fait que vous êtes originaire d'un pays qui est au carrefour de la Corne d'Afrique, le Djibouti, un pays aussi exposé à des menaces sécuritaires et à l'instabilité politique. Que vous inspire la situation politique et sécuritaire de la RDC par rapport à toute cette expérience que vous traînez?
Merci pour la question. Effectivement, avant de rejoindre la police, j'ai exercé un autre métier, hein. J'étais professeur. Je rejoins la police, d'abord la police scientifique, après l'administration. Au niveau national, mais au niveau international, j'étais en Côte d'Ivoire, au Mali, pour y occuper les mêmes fonctions. D'abord, ma première remarque, c'était il y a des missions plus difficiles qu'ici. Il y a des missions beaucoup plus difficiles, dont le contexte est beaucoup plus difficile. Particulièrement le Mali, où nous avons eu à faire face à des menaces asymétriques très directes. Nous avons perdu, en très très peu de temps, hein, plus de 80 casques bleus. Nous avons eu plus de 200 blessés, dont de très jeunes femmes et hommes mutilés. Donc pour vous dire qu'il y a des missions beaucoup plus difficiles. Effectivement, le Congo était aussi un cas particulier, hein, avec l'histoire du Congo, l'évolution du Congo, et ainsi de suite. Néanmoins, je ne suis pas là pour porter un jugement, mais pour dire que, certes, les Nations Unies ici sont ici pour aider le Congo, qui s'est retrouvé à un moment donné en difficulté, et je m'inscris dans cette logique de me mettre à disposition, de contribuer à ce que le Congo retrouve sa plénitude, et que la mission puisse quitter le plus tôt possible. C'est l'intérêt des missions de maintien de la paix, de pouvoir aider un pays, le soutenir, et une fois que ce pays-là est suffisamment solide, que les missions puissent se retirer. Je suis très content de savoir aujourd'hui que la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire va se retirer. C'est-à-dire que le travail qu'on aura fait a été remarquable. C'est tout le vœu que je peux souhaiter ici, de contribuer, de participer plutôt à ce que le Congo ait des institutions beaucoup plus solides, de façon à ce que la mission puisse se retirer le plus tôt possible.
Mon général, merci.
C'est moi que vous remercie pour l'opportunité et vous dire que ce sera avec plaisir que je reviendrai vous voir.
La nouvelle de province nous emmène à Nitouri. Trois bâtiments construits à Mambasa au profit de la police nationale congolaise PNC, ouvrage mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations OIM dans le cadre du programme SAREC. Ces ouvrages ont été remis au gouverneur de cette province le week-end dernier. Un reportage de Sadiq Aboubakar.
Les bâtiments de Mambasa et de Nyanya sont des commissariats de la police. L'ingénieur constructeur Pablo Montpied indique que chacun comporte 9 bureaux, 2 magasins, 2 cellules de détention préventive, une salle de réunion, une salle de garde et une salle d'attente. Chaque bâtiment est aussi alimenté en énergie solaire et équipé de 2 antennes de communication radio qui couvrent 60 km². Ils sont aussi équipés en meubles et des serviettes en eau. Le bâtiment des Poulous est un sous-commissariat. L'objectif de ce projet, selon l'OIM, est de lutter contre l'impunité en restaurant l'autorité de l'État. Cependant, pour le Starek, il y a encore beaucoup à faire à Mambasa. Olivier Trichoté de l'OIM demande à ce sujet aux bailleurs des fonds une prolongation des 3 mois.
Il y a la nécessité de continuer 3 mois de plus sans demander des financements complémentaires pour permettre de réaliser, de finaliser ces activités. Tout cela évidemment dans l'intérêt des bénéficiaires.
Le gouverneur Abdallah Penimbaka se dit satisfait de ces ouvrages. Il appelle les bénéficiaires à un bon usage. Le coût de construction de ces 3 bâtiments est de 800 000 dollars américains financés entre autres par la Norvège. De retour de Mambasa, Sadiq Aboubakar, Radio Kapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Le crainte de blocage du dialogue, c'est la question retenue cette semaine. Charles-Antoine Bambara, directeur de l'info publique de la MONUSCO, répond.
Merci, c'est Isaac Ngwenza pour le compte Congo Opportunities Media. Monsieur Charles, vous venez de briefer lors de votre rapport l'inquiétude du représentant spécial du secrétaire général en mission de maintien de la paix, monsieur Aman Sidikou Sambo, qui appelle la classe politique congolaise au respect à l'état de droit et fustige des arrestations des opposants qui, selon lui, va encore exacerber la situation. Pensez-vous que dans ce climat, on pourra avoir un dialogue qui puisse résoudre les problèmes qu'on a au pays. Au moment où on convoque les dialogues, il y a des opposants en prison, d'autres en exil, et les chaînes de télévision appartenant aux opposants fermés.
Il faut bien utiliser les termes du représentant spécial, M. Sidikou. Il n'a pas fustigé quelqu'un. Il a simplement dit qu'il était préoccupé, et j'allais dire même profondément préoccupé, par l'évolution de la situation donc politique en RDC. Il appelle à un sursaut de la classe politique de tous bords, bien sûr, pour effectivement que le dialogue et puis le processus politique puissent se passer dans un climat apaisé. C'est dans ce seul contexte que nous croyons que la donne politique doit évoluer, car si cette tension politique est maintenue, on peut effectivement craindre quelques débordements.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je me nomme Roland Sibomessi. Je suis né à Kisangani, marié et père des enfants. Je suis natif d'une tribu riveraine qu'on appelle Lokele. Ma nourriture de préférence, c'est le vituma, la chikwang, le riz et au fait de manioc. Ce sont ces mets-là avec lesquels j'ai grandi. Effectivement, en tant que Lokele, je suis né dans une pirogue. En fait, notre nourriture de base, c'est le passon. En fait, moi, j'étais jeune, je jouais au football depuis que j'ai atteint cet âge-là. Je me donne beaucoup au sport de la pétanque, au footing avec des amis et à la natation. Comme j'avais dit auparavant, je suis né à Kisangani. Après mes études primaires, je suis entré au petit séminaire de Mandombe, où j'ai fait la section préco latine. En 1978, j'ai voulu aller au grand séminaire, au moment où, à l'état-major militaire à Kisangani, on recrutait les officiers pour les camps de formation officiers. J'ai participé au texte et j'ai réussi avec d'autres amis et nous sommes allés à l'EFO et je suis de la 10e promotion de l'école de formation d'officiers de Kananga. Après l'EFO, nous étions choisis au nombre de 9 pour faire les cours d'application de la gendarmerie nationale au centre supérieur militaire. Je suis parti là. Après la formation, j'ai été affecté comme instructeur dans un centre de formation des gendarmes à l'époque, Matadi Mayo. Après cette formation-là, je commandais presque toutes les unités à l'époque de la gendarmerie dans la ville de Kinshasa. Au moins, la guerre a commencé à l'Est et le changement de pouvoir politique. Nous étions tous confinés, les ex-phases à Kitona. C'est de là que j'ai été choisi pour venir former les jeunes gens à la création de la police nationale congolaise. Et j'ai été comme chargé des opérations dans plusieurs unités de la police avant que je sois choisi pour faire la liaison de la police avec la MONUC. Étant dans les Nations Unies à cette époque-là, j'ai pris le goût d'aller servir sur d'autres pays comme les autres sont venus nous aider avec l'arrivée des nouveaux pouvoirs au Congo. Et sous l'insistance du commissaire de police de la MONUC, le commissaire Kur, qui a fait tout pour que les Congolais puissent aller aussi servir dans d'autres missions de métier de la paix. Et nous avons participé à un test. Nous étions au nombre de 44. On a réussi 22. 2 sont partis en Haïti. Les 20 sont venus à l'ONUC. Dès que je suis arrivé à l'ONUC, j'ai occupé le poste tout d'abord de chef adjoint du bureau à Quinte interne. Après, j'étais chef de poste adjoint dans la zone Senou, à Danané, une ville qui est frontalière de la République de Libéria. Disons que depuis que nous sommes venus à la mission en 2007, nous avons prouvé que le pays frère que la Côte d'Ivoire a été ravi par la crise et que ce pays était divisé en deux parties. Nous étions dans un premier temps dans la zone rebelle et nous avions essayé avec eux ensemble de sécuriser la population, de faire à ce que les institutions de la République soient implantées partout. Et puis nous avions formé les ex-combattants afin d'être resserré dans la police actuelle. Nous avons continué à sillonner tous les départements de la Côte d'Ivoire pour essayer de faire revenir la population qui était en brousse. Et puis nous avons participé ensemble au moment de campagne électorale pour la présidentielle de 2010 comme chargé de sécurité dans le département de Dabou. Nous avons contrôlé les élections, nous avons certifié les élections, nous avons envoyé tous les résultats à l'ONUCI, pour la certification des élections. Au sein de l'ONUCI, les protégeants congolais ont été appréciés par leur application service, leur professionnalisme, leur savoir-être et faire. Sans nous vanter, je pense que partout où nous passions pour réconcilier le peuple ivoirien, nous avions été accueillis avec enthousiasme. Ce sont de bons souvenirs que nous avons. Nous avons travaillé dans ce climat de diversité. Nous avons échangé nos expériences que nous avons apportées dans notre pays et nous avons accueilli leurs expériences. Vous savez que depuis que le Congo est Congo, la force de sécurité congolaise, je pense la police et la gendarmerie, n'a jamais participé à une mission de maintien de la paix. C'est toute la première fois qu'un contingent congolais quitte son pays pour venir maintenir la paix dans un pays frère. En allant dans des missions de maintien de la paix, que le contingent congolais va acquérir une expérience internationale et qui sera bénéfique, je pense, pour le pays. Je pense qu'après la mission, en rentrant chez nous, nous voulons c'est que nous emportions chez nous l'expérience que nous avons eue dans des missions de maintien de la paix. Les policiers congolais sont les précurseurs de la dynamique de la paix dans leur pays pour que le pays recouvre durement sa paix et sa prospérité. Merci beaucoup.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Dans votre agenda de la semaine, notez ce rendez-vous du 31 mai au 2 juin se tiendra à Kinshasa un atelier sur la promotion des sexes et lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre au sein de la police nationale congolaise PNC. Organisateur de cette formation, la PNC elle-même, avec l'appui du PNUD, ONU Femmes et de l'Agence de la coopération internationale allemande GIZ. C'est la fin de votre émission, le magazine des Nations Unies. Vous pouvez la réécouter sur notre site www.radiokapi.net. Jean-Pierre Elali était à la coordination. Honoré Mitenga Kalala au reportage. Willem Lungamba à la mise en onde. Le tout sous la supervision de Martin Sebujangwe. Et moi, je suis Nadine Fulansimba. Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous dans 7 jours. D'ici là, bonne journée dominicale.